Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Belle et le Gamer.
Quand même, le Patreon, ça vaut le coup. Hein.
Ouais, il s'est passé des trucs là en pré-show, excusez-moi, mais ça vaut très exactement 4 euros. Et 80 centimes parce qu'il y a les taxes.
Ouais, mais bon, les taxes,
bonjour.
On peut rien. Nous.
La Belle et le Gamer, épisode numéro 320.
Oui.
Nous sommes le 15 avril.
Oui.
De la glorieuse année 2024.
Elle est glorieuse.
Elle est glorieuse.
De plus en plus. Elle est de plus en plus glorieuse.
Elle rentrera dans les annales. clin d'œil au pré-show. Avant de commencer, qu'est-ce qui se passe ici, ma chère Aza et moi-même Ben? On est là tous les lundis pour vous raconter tout ce qui se passe d'intéressant dans le monde des jeux vidéo. Tu fais, ça va?
Oui, pourquoi tu me demandes?
Non, t'as l'air scandalisé.
Bah, je suis scandalisé parce qu'aujourd'hui, on va pas parler de jeux vidéo. Hein. Enfin, si, on va parler de jeux vidéo, mais on va expliquer.
Un petit peu quand même, ça veut dire une analyse de l'actu brûlante, des tests pointus, des dernières sorties et un décryptage précis des rumeurs les plus incroyables. Le podcast est dispo partout où on peut trouver des podcasts. On stream également de temps en temps sur Twitch et on se balade sur les derniers réseaux sociaux à la mode.
Pas trop, parfois.
Mais surtout, vous pouvez nous retrouver tous les deux et tout le reste de la communauté du podcast sur Discord. Si vous aimez ce qu'on fait, vous pouvez nous laisser un commentaire 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. Et vous pouvez même nous soutenir sur patreon.com/labelleetlegamer. Rendez-vous dans les notes de cet épisode pour tous les liens utiles. Aza ?
Oui.
Nous sommes le 15 avril.
Oui.
On dirait pas comme ça, mais on n'a pas encore fait les Patreons du mois.
C'est vrai, on n'a pas fait Patreon du mois.
On avait promis.
Parce qu'on a été harcelé la semaine dernière et,
ouais,
et on
compliqué.
Voulait éviter un harcèlement pyramidal, voilà, sur les Patreons.
Pyramidal.
J'ai regardé un documentaire sur Madoff cette semaine.
Le mot de la semaine, c'est pyramidal. Non, voilà, tous les mois, on prend un peu de temps pour remercier chaque membre de la communauté qui soutient le podcast sur Patreon. La Belle et le Gamer a mis en place un Patreon qui permet de nous aider à continuer à produire ces épisodes chaque semaine. Le Patreon, c'est un palier unique de 4 euros par mois. 4,80€. Voilà, 4,80€, c'est ça, parce que 20% TVA. Je vais dire le bon chiffre, parce qu'après, les gens, ils sont surpris et on se fait insulter.
Là aussi, tu as un harcèlement sur Discord.
Beaucoup plus soft.
Qu'est-ce que c'est que ces 80 centimes?
Ce qui fait globalement 1 euro par épisode. À quoi servent ces sous? Avec ça, on entretient notre matériel d'enregistrement, on couvre les frais d'hébergement du podcast et ça nous aide à consacrer davantage de temps pour vous préparer le meilleur podcast possible. En contrepartie, en participant au Patreon, vous avez accès à un canal secret sur notre serveur Discord où vous pouvez gagner des cadeaux régulièrement et vous pouvez assister chaque semaine à l'enregistrement de l'épisode en direct. Merci donc à tous ceux qui nous aident et pour ce mois d'avril 2024, la Belle et Gamer est rendue possible grâce à Stéphane de l'épisode 316, Gabriel V, Lee Camp, Rentemplant, Yohuji, Kirin, Matt Guyver, Schnours 2056, Piccolo. Rouge Pingouin, Gary, Ruler Racing, Mensetsu, Focalor, Tortue Génial, Son Goten. On a un hommage à Akira Toriyama ce mois-ci, j'ai l'impression. Miempar, Nasbrock, Yamcha Perché, B413, Yadraos, Palace, La Méduse, Docteur Senbei Norimaki, Razorfil, Kakarot, Anthony C, Krilin le Bot Lover, Nikolai Dussalève, Emmanuel P, Mélanie, Hubert T, Chitai, Lagerta, El Foufi, Majin Vegeta Super Saiyan, Bulma, Dionra 78, Piccolo le Goat, J'aime bien la casquette de Ben, Maître Franz, Rodo, Azazel et Peggy C18. Un peu un mélange de... Merci à tous, merci à tous les Patreons qui nous soutiennent.
C'est pas des
blagues, ça nous permet de continuer à faire ce podcast chaque semaine. Et les semaines où c'est un petit peu plus dur, où on a beaucoup de travail, où on est fatigué, où on manque de motivation, c'est vrai que c'est souvent ce qui nous rappelle à l'ordre. Il y a des gens qui attendent ces épisodes chaque lundi.
Tout à fait. Oui, parce que là, c'est une semaine où...
Cette semaine est un peu difficile.
Elle est très, très difficile.
Cette période est un petit peu difficile. Ça fait quelques semaines que c'est un petit peu compliqué pour Aza et pour moi. Cette semaine en particulier, mais on a quand même préparé un épisode.
Non, mais attends, moi tu sais que j'aime bien maintenant parce que en fait hier on a eu une grosse dispute avec Ben.
Oui, on s'est disputé.
Et à tel point que j'ai fait mon sac et je suis partie. Et je voulais vivre.
Pas très longtemps.
Ta gueule. Je voulais vivre de mes crimes sur la route.
Oui.
Et
Tu t'es vu C'était une mauvaise idée.
Non, je réfléchissais vraiment à ça. Comment, qu'est-ce que je vais faire? Je vais disparaître, plus personne ne me retrouvera jamais, on fera des podcasts sur moi jusqu'à la fin des temps. Et là, Ben, il m'a appelé, il m'a dit « Bon, j'ai faim et je sais pas quoi faire, tu reviens ?»
Je sais pas faire marcher la machine à laver.
C'est ça. Donc, j'ai dit « Bon, ok. »
Donc voilà, elle a eu pitié de...
Non, voilà, donc...
Non, période complexe.
Ben a décidé d'arrêter de me brimer complètement, donc je vais être...
On a une NASA sans filet.
Vous avez une NASA sans filet, je vais pouvoir dire exactement ce que je veux sur Discord et sur ce podcast.
Exactement, donc tremblez dans vos chaumières, pédophiles et harceleurs en série.
Oui, bon, ça, oui, non, mais ça tremble de base quand même. Oui. Ils sont pas sereins, quoi.
Non, complètement.
Et qu'est-ce que je voulais dire?
Et je ne sais pas. Je sais pas, mais si tu veux, je meuble hein, pendant que. On peut parler de jeux vidéo sinon. Hein. Si ça te revient plus tard, on peut revenir dessus.
Je dis ce que je veux en fait.
Ben, c'est ça, mais par contre, on va pas t'attendre. Hein, on a un podcast à meubler quoi.
Ouais, mais si j'ai envie qu'on m'attende, on m'attend quoi.
Les jeux auxquels on a joué cette semaine, ma chère Asa. Alors, c'est bien entendu la suite de nos aventures sur Final Fantasy VII Rebirth. On approche de la dernière ligne droite, on approche de la fin. On est au chapitre 12. Donc voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire sans spoiler? Parce que j'ai pas envie de spoiler l'histoire. Mais en même temps, l'histoire elle a 30 ans, donc merde. voilà, non, tu vois, c'est toujours.
Après, tu vas te faire engueuler.
Oui, je vais me faire crier par les gens. Il y a beaucoup de gens qui découvrent Final Fantasy VII avec ce jeu-là. Est-ce qu'on en parle tout à l'heure de Final Fantasy VII? Est-ce qu'il est dans l'actu? Ouais, le jeu est dans l'actu. On en reparle tout à l'heure parce qu'on a des premières nouvelles de Final Fantasy VII Remake, troisième partie.
Voilà.
Et oui, parce que c'est la suite. En tout cas, là, j'en suis. Il y a une scène quand même. Alors, c'est spoiler ou pas, hein, peu importe, puisque ça existait déjà dans l'original. Il y a des scènes qui se passent dans un casino gigantesque, hein, le Gold Saucer, et avec une cinématique, une séquence en fait, où le personnage principal, Cloud, passe la soirée avec un membre du groupe. Généralement, c'est une sortie intime avec une jeune fille.
Du membre du groupe, quoi.
Dans l'original, c'était souvent soit Aery, soit Tifa, c'était les plus naturels. Après, si tu forçais un petit peu, tu avais la possibilité de faire du Barrett, de faire de Yuffie, des trucs comme ça.
Ah, tu pouvais te taper Barrett.
Alors, c'est pas te taper Barrett, enfin, tu passer une soirée romantique avec Barrett. Absolument.
Te faire taper par Barrett.
Te faire frapper par Barrett. donc voilà, on approche de ce moment-là dans FF7 Rebirth, et là je suis en train d'essayer de jauger mes barres d'amis.
Tu veux pécho Tifa, quoi.
Exactement, je veux pécho Tifa, ce qui est bien naturel, et j'ai l'impression que le jeu est en train de me pousser vers Red 13, donc ça me, ça me perturbe un petit peu. Donc j'essaye de voir s'il n'y a pas du contenu qu'on a laissé de côté qui nous permettrait de gagner les faveurs de Tifa, mais voilà, c'est là-dessus.
La dernière fois qu'elle t'a vu, Tifa, elle a dit que t'avais une petite bite et que c'était pas la peine.
C'est une scène cachée qu'on a débloquée.
Tout à fait.
Vous êtes très peu à l'avoir vue.
Elle a dit moi, je préfère la bite de Sephiroth, la tienne, elle pue, quoi.
Exactement. Voilà. Donc FF7 Rebirth continue à être un super jeu, continue à être un jeu qui ne se vend pas, ça, on a encore de l'actu là-dessus, on en parlera tout à l'heure. Ouais, c'est.
Comme dit, c'est tombé au mauvais moment, mais c'est dommage, quoi.
Toujours pas de chiffre officiel pour Final Fantasy VII Rebirth, mais d'après un éminent analyste du jeu vidéo, Daniel Amat, sur Twitter, FF7 Rebirth serait grosso modo à la moitié des ventes de ce qu'avait fait Remake pour la même période.
D'accord.
Hein, grosso modo à 50%.
C'est vraiment un éminent analyste ou c'était pour te moquer?
Non, il est fort. Il est super fort, le mec. Okay. C'est pour ça que j'en parle.
Mais il harcèle pas les gens, lui.
Non, il est cool.
Il est gentil.
Non, il est très très cool. Il travaille pour une firme des analystes.
Financiers?
Non, jeux vidéo. Vraiment, jeux vidéo sur, qui analyse l'industrie, qui font des rapports d'analyse vraiment, vraiment très pointus. Et donc selon lui, Rebirth serait à grosso modo 50% des ventes de Remake. Alors, les explications, il y en a plein, c'est normal, ne serait-ce que le parc installé. On parle d'un jeu qui est exclusivement sur PS5 alors que le précédent était sorti pendant une pandémie sur PS4. Il y avait beaucoup de gens qui avaient envie de jouer à des jeux vidéo à ce moment-là. C'était le premier jouet énormément sur la nostalgie. FF7, le jeu légendaire, le remake, le truc tant attendu par les fans depuis 30 ans, incroyable, allez, jetez-vous dessus. Là, le discours n'est pas exactement le même. Le discours, c'est bon, bah là, c'est la suite. Si le premier vous a plu, voici la suite directe. Mais il y a beaucoup de gens à qui le premier n'a pas plu. Donc c'est normal qu'on ait des chiffres.
Mais ce qui est dommage en plus de faire une com là-dessus, parce que c'est pas si le premier vous a plu, il est vachement différent du premier, ce jeu, je trouve.
Ouais, mais c'est aussi la suite directe. Et oui. Si t'as pas l'histoire du premier, si t'es pas dedans,
il faut avoir fait le premier.
Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont été déçus par le premier, qui skippent le deuxième. Alors, qui skippent le deuxième, ça peut aussi vouloir dire non, le deuxième, je le ferai, mais calmez-vous.
Quand il y aura tout, quoi.
Calmez-vous avec vos 80 euros, on sait très bien que dans 6 mois, il est sur le PS Plus.
Bien sûr.
Voilà, il y a beaucoup de gens qui vont raisonner comme ça.
Plus tu mets des jeux à 80 euros, plus les gens ils vont raisonner comme ça. Hein.
Voilà. Quand t'as 6 RPG japonais gigantesques qui sortent en l'espace de 5 semaines, à 80 euros chacun, tu fais des choix.
Et oui, c'est
tu
normal.
Fais des choix. Il y en a qui vont dire ouais, mais moi mon jeu c'est Yakuza, moi mon jeu c'est Persona, moi mon jeu c'est Final Fantasy. Après, t'auras des bizarros qui vont dire moi c'est Grand Blue Fantasy. Mais. On n'y a pas joué.
On n'y a pas joué et...
Si ça se trouve, c'est vachement bien.
Et on a dit qu'on arrêtait de critiquer les gens bizarres.
Alors... non, mais tu vois, il y a des gens... on peut faire les deux, tu vois.
Oui.
Hein, les fans de Pokémon, je peux continuer à les traiter de dégénérés avec respect.
Ah, les fans de Pokémon, oui, mais les fans de Pokémon, oui, c'est pas pareil.
C'est pas
se moquer, c'est énoncer des faits, quoi.
C'est... Bon, on reparle de FF7 Rebirth tout à l'heure dans l'actu, comme dit. Cette semaine aussi, dans les sorties. Alors, il y a un jeu qui est sorti sur. Alors, c'est sorti sur quoi ? Sur Steam. C'est Devolver qui fait ça. C'est Children of the Sun. On l'a vaguement mentionné la semaine dernière. Je suis en train de regarder en même temps. Alors, c'est sur Steam, mais je crois que c'est que sur Steam. Ce qui n'est pas plus mal, parce que moi je vois bien, c'est un jeu qui se joue bien au clavier et à la souris, surtout la souris en fait, parce que si tu fais du sniper très minutieux, c'est pas un jeu, alors c'est un, pour le remettre dans le contexte, hein, parce que c'est toujours important, c'est un jeu qui est sorti sur Steam à 14 euros.
D'accord.
Voilà, donc c'est un petit budget et c'est un jeu, c'est intéressant. Visuellement, il est assez spécial, assez original, assez fou, avec un visuel très saturé, très coloré, mais aussi avec des tons un petit peu lugubres. C'est une histoire de secte, Children of the Sun, d'après ce que j'ai compris de l'histoire, qui est très succincte. Children of the Sun, c'est une secte. Et tu joues une personne qui veut se venger de cette secte avec ton fusil sniper, et tu vas sniper des membres de cette secte.
Oui, tu vas même éradiquer... tous les membres de la secte.
C'est ça, voilà. L'idée, c'est ça. Et donc, c'est une succession de niveaux, et c'est des puzzles, en fait. Tu vas arriver sur un niveau où tu as des gens à sniper. Alors, tu vas avoir 2, 3, 4, 5, 6, 10 cibles à sniper. Alors, ils t'ont pas vu arriver, hein. Tu es loin, c'est un sniper, évidemment. Mmh. Ils font leur vie. Il y en a un qui est en train de pisser, il y en a un qui est en train de ranger des trucs dans une maison.
Il y en a qui sont en train de pisser ?
Oui.
Ça, alors ?
Le premier que tu vois, il est en train de pisser. Ah. Ils ont flouté son kiki.
Alors, en même temps, le jeu, il est pas très. Je sais pas si visuellement ils pouvaient faire un kiki parce qu'il est quand même un peu abstrait, quoi.
Ils ont flouté la zone kiki.
D'accord. Hein, c'est bien. Mais c'est toujours important de flouter.
C'est même important de flouter les zones kiki. Donc voilà, ils vont être en train de faire leur truc. Ils sont autour d'un feu de camp. Ils sont à côté d'une voiture.
Ils pissent dans le feu de camp ?
Non. Ils font pas tous pipi. Essaye de suivre, hasard, on va pas s'en sortir. Il y en a qui sont en train de réparer une voiture. Il y en a à l'intérieur de la maison, des trucs comme ça.
Ils pissent dans la voiture ?
Et dans la maison. Et donc, le but
oui, mais
du
dans
jeu,
la maison, c'est logique.
C'est de tous les tuer, mais en une seule balle. Le puzzle, il est là, tu as une seule balle.
Oui, après, ça défie les lois de la physique, mais, hein, quand même, on est d'accord.
Voilà, alors, c'est ça, il ne faut pas attendre qu'ils soient tous les 10 alignés.
Oui, parce que c'est pas comme
ça. C'est pas un puzzle très marrant. Non, c'est la balle, si tu veux, je crois, c'est le même fusil qui a servi à tuer JFK. Puisque, en fait, à chaque fois que tu touches une cible, tu réorientes et en fait, tu fais un espèce de tracé de cible en cible. Donc tu tires la première cible, ensuite tu revises la deuxième, la troisième, et tant que tu as toujours une cible dans l'axe de la précédente, dans le champ de vision, et bah, tu peux enchaîner, tu peux faire ton petit parcours entre toutes les cibles, ton petit zigzag, et arriver à tuer toutes les cibles. Alors parfois c'est simple parce qu'ils sont tous les 3, tous les 4, tous les 5 dans un espace ouvert, donc tu fais 1, 2, 3, 4, 5, hop, c'est parti. Les premiers niveaux de tuto, c'est un peu ça. Mmh. Mais après, il va falloir réfléchir un petit peu. Il y en a un qui est au premier étage de la maison et tu peux le choper que s'il est dans l'axe de la fenêtre. Donc tu vas avoir une fenêtre de tir assez étroite, donc il va falloir réfléchir par où je viens et vers où je repars quand tu veux le
oui,
tuer.
Oui, parce qu'une fois que ta balle elle est dans lui,
dans la tête du bonhomme,
il faut que tu réorientes vers un autre.
Alors soit c'est le dernier voilà. De la série, pourquoi pas, à ce moment-là t'as terminé là, soit il faut ressortir de la maison en ligne droite vers une autre cible. Mmh. Alors tu vas avoir, au fur et à mesure ça va débloquer des trucs. Tu vas pouvoir parce que ça va compliquer ou simplifier les puzzles selon ton point de vue, mais ça va rajouter des éléments. Alors tu vas pouvoir influencer la trajectoire de ta balle qui va pouvoir faire des courbes ou des trucs comme ça.
Toujours selon les lois de la physique,
mais voilà, après l'histoire j'ai pas bien compris, mais je crois que la personne a des pouvoirs ou des trucs comme ça. Mais...
Ah bon ?
Ouais, c'est bizarre.
Mais après, c'est quand même...
Il y a des flashbacks où elle était petite et son père l'a emmenée chasser et en une balle, ils ont tué 5 cerfs. C'est bizarre.
Ah oui, c'est quand même des gens qui tuent des animaux.
Non, mais c'est étrange. Donc ouais, tu peux influencer la trajectoire de ta balle en la faisant courber un petit peu pour éviter un petit obstacle ou ce genre de choses. Tu peux faire des cibles annexes, hein, si jamais tu veux tirer sur un oiseau ou un lapin ou un truc comme ça. Ça vaut pas de points, c'est pas nécessaire pour finir ton niveau, mais ça te permet de trouver un autre angle pour rebondir après vers une vraie cible. Et tu peux viser des choses comme des barils explosifs ou les réservoirs des voitures. Si jamais tu en as 3 qui sont autour d'une voiture en train de faire un truc, tu peux en faire 3 d'un coup en faisant exploser la voiture. Donc voilà, ça te donne plein de possibilités pour faire ton niveau. Et une fois que tu as fait tous ces objectifs, il y a généralement aussi un challenge secondaire. Un petit peu obscur.
Oui, voilà. Ouais. C'est ça dont je voulais parler. Bah, déjà, c'est un jeu où il y a zéro dialogue, hein, on est d'accord.
Il y a zéro dialogue.
Il y a zéro voix. Et parfois, en fait, donc entre les niveaux, tu as parfois des scènes visuelles qui sont dessinées, hein, mm-hmm. qui ne sont pas sur le moteur du jeu.
Dessinées, légèrement animées, mais pas trop.
Voilà, qui te montrent un peu l'histoire. Mais bon, mm-hmm. ça reste un peu... vu qu'il n'y a pas vraiment d'explication, ouais. ça reste un peu obscur.
Encore une fois, on est sur un jeu à 14€. Hein.
Oui, bien sûr. Mm-hmm. Et après, donc tu as des objectifs secondaires sur tes missions où là, tu as un truc écrit, en fait, une phrase écrite ouais. au début de la mission. Et ça te donne une indication sur ce que tu dois faire pour réussir l'objectif secondaire. En fait.
Ouais. Alors parfois, ça prend au sens littéral. Parfois, il faut comprendre ce qu'il veut dire. Une des premières missions, je crois que le sous-titre de la mission, c'est « Faites brûler les balles ». Et en fait, il faut que dans ta trajectoire, quand tu rebondis entre des différentes cibles, à un moment donné, ta balle traverse le feu de camp et littéralement traverse la flamme qui est au milieu du niveau. Et là, du coup, ça te valide le défi. Donc ça peut être intéressant, voilà, il y a de la rejouabilité parce que tu vas refaire le niveau pour réussir à faire le défi, pour avoir un meilleur score parce que c'est un jeu, il y a un côté score-attaque en fonction de est-ce que tu as fait des tirs à la tête, est-ce que tu as été vite, est-ce que tu as fait des trajectoires optimisées, la distance de parcours de la balle, ce genre de choses, tout ça va contribuer au nombre de points que tu vas avoir et tu vas avoir un leaderboard mondial, un leaderboard parmi tes amis, des choses comme ça, donc tu peux te défier un petit peu. Et voilà, c'est plutôt intelligent comme jeu. Mmh. L'ambiance est assez unique.
L'ambiance est super, ouais.
Moi, j'ai...
Moi, je déplore un peu le manque d'histoire. J'aurais aimé avoir plus.
Voilà, après, c'est light niveau histoire. Ce qui est à la fois une bonne chose et une mauvaise chose. Hein. C'est les deux à la fois.
Comme dit, pour un jeu à 14€, bon, ben voilà, c'est...
Ouais.
Ça se comprend.
Ça se comprend.
Mais c'est vrai que moi, il y a quelque chose qui me manque, quoi.
Voilà, mais toi, on sait que... C'est vrai que... Non, mais c'est marrant d'avoir ces deux points de vue, parce que c'est vrai que toi, tu es toujours à rechercher l'histoire, la narration, la construction de...
Tout à fait, de l'univers, de quelque chose...
Comment un jeu vidéo peut être au service de raconter
une histoire, exactement.
Différentes façons de raconter une histoire à travers le gameplay et les cinématiques, ça c'est quelque chose d'intéressant. Moi, parfois, j'apprécie quand un jeu vidéo perd pas de temps, il dit voilà... Hop, tu es dans le jeu, tu joues, tu as la manette en main, c'est parti, c'est à toi de jouer. J'avais Il n'y a rien qui me ralentit plus, qui me dégonfle plus qu'un jeu en disant « Ah, un nouveau jeu, on va tester, ça a l'air trop bien, le gameplay a l'air trop cool. » Et ça commence par 25 minutes d'exposition, de gens qui te parlent, de trucs, de machin.
Non, mais ça, c'est pas utile. Hein, mais...
Ouais, non, mais il faut un juste milieu entre
oui,
les deux.
Oui, voilà.
Il faut un juste milieu entre les deux. Mais c'est vrai que le jeu qui avait fait ça de façon vraiment intelligente, c'était Hades.
Oui, Hades.
Hades, quand tu fais une nouvelle partie, que tu lances le jeu pour la première fois, tu as ton personnage, poum, tu es droppé dans le truc et tu joues. Voilà. Et tu tues des ennemis, et tu es dans le labyrinthe, et tu avances. Et quand tu meurs la première fois, et qu'il te ramène au début, là, ça commence à te raconter l'histoire, et qu'est-ce qui se passe. Mais première chose que tu fais, t'appuies sur Start, ça joue.
Ah oui, oui, c'est sûr.
C'est
bien, hein.
Moi, j'aime bien ça.
Ah oui, oui, mais moi aussi, hein. Je te dis pas raconter l'histoire, et que l'histoire prenne toute la place, hein. Mais là, je trouve que, du coup, pour moi, ça se résume à un jeu de tir, alors qui est intéressant. Hein.
Ouais.
Et du coup, c'est ça qui me fait un petit peu de peine, parce qu'il m'intéressait, ce jeu, parce que moi, tuer des gens au sniper, c'est quelque chose qui me branche.
Ouais, ouais.
Et
la police, écoutez pas.
C'est quelque chose... C'est une idée qui me branche, et je trouvais que l'ambiance du jeu me branchait beaucoup aussi, donc j'aurais aimé... plus de contexte et comprendre un peu plus. Et voilà. Bon, on comprend un petit peu, mais j'aurais aimé que le côté histoire soit un petit peu plus développé.
On comprend un petit peu. L'histoire est là, mais c'est vrai que c'est suggéré. Il faut comprendre. Faut comprendre. Et c'est un parti pris intéressant. Hein.
Oui.
C'est un parti pris intéressant. Donc voilà, Children of the Sun, c'est disponible sur Steam à 14 ou 15 euros, je ne sais plus, entre les deux. N'hésitez pas à tester. Comme dit Steam, c'est une bonne plateforme pour y jouer. Je pense que c'est un jeu qui marche bien à la souris. Parce qu'il faut quand même viser la tête assez précisément, assez rapidement. Je ne l'ai pas testé à la manette. J'aurais pu brancher une manette sur mon PC ou sur le Steam Deck. Je pense que c'est moins adapté.
Je pense aussi.
Voilà. Aza, est-ce que je peux te prendre au dépourvu ?
Est-ce que ce serait la première fois ?
Absolument pas. Aza, tu as bien avancé, voire terminé. Tu es à jour des quêtes de Honkai Star Rail.
Ah bon ?
Non ? J'ai
oui.
rien compris. L'autre jour, je t'ai vu terminer un truc, défoncer un boss de fou. Il y avait une cinématique. J'avais l'impression que le toit de la maison allait tomber.
C'est clair, c'était trop fou. J'ai terminé l'histoire principale.
Moi, j'ai lâché Honkai, donc c'est toi qui es la spécialiste. Et je t'ai vu faire ce truc. Ça avait l'air fou. Ça m'a donné envie de relancer le jeu. Donc raconte-moi.
On va revenir en arrière. Il n'y a pas très longtemps, j'ai terminé l'histoire principale de Genshin Impact sur la région de Fontaine.
Ouais.
Et j'ai trouvé ça, mais incroyable, en fait. C'est trop, trop fou. Bon, après, Genshin, il y a beaucoup d'histoires, il y a beaucoup de dialogues, il y a beaucoup de cinématiques. C'est lourd en histoire. Pour ceux qui ne veulent pas d'histoire, ce n'est pas la peine. Hein. En tout cas, sur les quêtes principales. Ouais. Mais j'ai trouvé ça incroyable. Et du coup, là, pour enchaîner, il y a Honkai qui a sorti une nouvelle zone il n'y a pas très longtemps. Et là, on est sur la première extension
de cette zone. Ouais.
Et donc voilà, il y a la quête d'histoire de la zone. Donc déjà, c'est la zone des rêves, etc. Je trouve qu'ils ont passé un cap sur Honkai, qui était sur les premières zones. Bon, c'était mignon, mais voilà.
Ouais.
Là, en histoire, je trouve qu'ils ont passé un cap à la fois en histoire, en profondeur, en réflexion, en tout ce qu'on veut, parce que toute la thématique des rêves, le rêve qui s'oppose à la réalité, etc. Il y a une composante psychologique énorme, parce qu'il y a des gens qui passent leur vie dans le rêve, en fait, parce qu'ils ne supportent pas la vraie vie, etc. Enfin, tu peux avoir énormément de thèmes abordés dans ce truc-là.
Côté réflexion sur la réalité virtuelle ou ce genre de choses, sur les réalités simulées
Oui, voilà. Ouais. Et puis, réflexion sur la vie aussi, parce que la vie, elle est trop dure à supporter. Tu vas t'enfermer dans le rêve, et puis voilà, quoi. Et là, c'est un truc où ce monde de rêve est en train de se casser la gueule, parce que un rêve, c'est un rêve, quoi. Donc, voilà. Donc, il y a tout... Il y a vraiment une réflexion qui est assez importante et qui passe sur un autre niveau que ce qu'on avait sur Honkai, qu'ils ont déjà atteint sur Genshin. Mais là, en fait, Honkai commence à atteindre le niveau
de narration
de Genshin, en fait. Ouais. Et donc là, sur cette dernière extension, elle m'a vraiment impressionnée. Donc on suit en fait les aventures d'un personnage qui s'appelle Aventurine, et c'est trop fou, en fait. On est passé sur du perso
avec vraiment de la profondeur,
grave.
Voilà. Mais même visuellement, cette nouvelle zone, elle est assez folle avec avec un mélange de ce style, donc Aistarail, et presque où ils vont insérer de l'animation à l'ancienne qui rappelle un petit peu Cuphead ou des trucs comme ça
avec
des musiques un petit peu comme ça, de dessins animés, mais des années des années 40, quoi. C'est ça.
Non,
c'est très étrange.
Il y a vraiment une bonne évolution de Honkai qui commence à prendre vraiment de l'ampleur, je trouve.
D'accord.
Voilà.
Bon, c'est cool. Honkai, Star Rail, ça reste gratuit. C'est un gacha, donc attention. Alors, le gacha qui est sorti, auquel j'ai pas joué parce que ça avait l'air vraiment trop compliqué, en fait, c'est sorti qu'en Chine pour l'instant, c'est le nouveau Persona.
Ben oui, c'est compliqué parce que c'est sorti qu'en Chine.
Ben c'est ça. Ouais, mais bon, après...
Et t'as pas trouvé de solution, du coup ?
Alors, il y en a, mais c'est compliqué pour l'instant. Ah. Si tu veux, c'est en bêta ouverte. Elle est pendant une semaine ou un truc comme ça, c'est en bêta ouvert uniquement en Chine.
Oui.
Et là, c'est très compliqué parce qu'il faut... Voilà, il faut... avec les vérifications d'identité, des trucs comme ça, de machin. Oui. Ça se fait, hein, mais c'est... Et après, le jeu sort dans le reste de l'Asie, entre guillemets. Ça va sortir au Japon, ça va sortir en Corée. La semaine prochaine, d'après ce que j'ai compris, ça sera peut-être plus accessible. Je suis pas sûr qu'il y ait encore du texte en anglais. Après, il y a des solutions de traduction à la volée, des machins comme ça, mais je sais pas si j'ai envie de faire ça.
Et après, est-ce que c'est un jeu qui va sortir en Occident ou beaucoup plus tard ou
ça, alors, plus tard, oui, ça va sortir en Occident. Pour l'instant, les rumeurs, c'est du 2025 en Occident. Ouais. C'est pas tout de suite. Après, on va voir selon le succès du truc.
Après,
ça
2025,
accélérer.
Ça arrive. Hein.
Mais ça a l'air. Mais du coup, il y a beaucoup de gameplay qui s'est retrouvé sur Internet. Mmh. Ça a l'air vraiment cool. Alors, encore une fois, c'est du jeu mobile, c'est du gacha, c'est du voilà. C'est pas exactement Persona, mais c'est dans cet univers-là.
Ouais, mais vu ce qu'ils arrivent à faire sur des jeux comme Genshin.
Voilà, du coup, ça m'intrigue. Ça m'intrigue. J'ai envie de voir ce qu'ils font là-dedans.
Enfin, je trouve que ça se prête bien à un jeu comme Persona. Hein.
Ouais. Ça se passe dans l'univers de Persona 5. On a du Persona dans l'actu aussi aujourd'hui, donc on va en parler. On va enchaîner dessus d'ailleurs, c'est notre première news. Mais ouais, c'est dans l'univers de Persona 5. En gros, tu suis un groupe de voleurs fantômes qui agit en parallèle du groupe que tu joues dans Persona 5, dans un autre lycée. Mais voilà, on est à peu près au même endroit. Tu croises d'ailleurs les protagonistes de Persona 5. Et voilà, donc ça a l'air vraiment sympa. Voilà, on en reparlera quand ça sera plus facile d'y accéder chez nous en France. Et voilà. Azar, est-ce qu'on passe
après, on pourra peut-être avoir une revue de presse de gens qui habitent au Japon.
S'ils
veulent l'acheter.
Alors c'est gratuit, c'est un free-to-play. Hein.
C'est un free-to-play. Gacha, ben voilà, s'ils veulent nous donner des infos dessus.
Exactement. Allez jouer, nos amis japonais.
Tout à fait.
À Persona 5 The Phantom X. Je sais plus le nom exact. Très bizarre. Allez, un peu d'actu. Les fans de Persona sont fous, hein, c'est le titre de cette... on reste sur Persona.
Le titre de quoi ?
De cette actu.
Ah, tu vas encore te faire harceler, toi. Tu cherches la merde, un peu.
Si vous aimez Persona, vous êtes des... Non, pas du tout. Non, beaucoup d'amour pour les fans de Persona. Non, disons que, si tu veux, les gens... Alors, il y a plein de jeux Persona qui sortent. Hein. Je veux dire, il y a plein de spin-off de Persona 5. On a eu Persona 3 Reload il n'y a pas longtemps. Il y a un DLC qui arrive en septembre pour celui-là. Donc...
Oui, c'est vrai.
Bon, les fans de Persona, ils ont quand même des choses à se mettre sous la dent. Oui. Mais on ne va pas se mentir, ce que tout le monde attend, c'est Persona 6.
Ben oui.
Hein, on veut commencer à avoir des infos sur Persona 6 et on n'a absolument rien. Et donc, à la moindre miette d'information, toute la communauté est en folie. Et là, la miette d'information, on l'a. La couleur dominante de Persona 6 sera le vert.
Ouais, on s'en fout, quoi.
Non, c'est important. Hasard, tu comprends pas.
Mais j'aime pas le vert, moi.
Oh, mais c'est un joli vert. Je te montrerai. On a vraiment, j'ai vraiment le vert exact. La teinte vert. Alors comment c'est ça ? Alors c'est quelque chose qui est confirmé par Midori. Midori, c'est une liqueuse assez efficace de tout ce qui est Sega et Atlus en particulier. et même Persona en particulier, c'est elle qui a, bah, elle a annoncé plein de trucs en avance, hein, tout ce qui était autour de Persona 3 Reload, ce genre de choses. Elle avait des infos très précises bien avant tout le monde, donc elle confirme aujourd'hui cette info que la couleur dominante de Persona 6, c'est le vert. Alors pourquoi c'est une info importante ? C'est pas une info importante. On est d'accord, c'est vraiment un petit détail, c'est vraiment pour dire que ça avance. Persona, les jeux Persona, c'est des jeux qui sont tellement basés sur leur style visuel et sur leur style en général que...
Il y a toujours une couleur dominante.
Les fans ont envie de savoir à quoi va ressembler le prochain. Persona 5, c'était le rouge. Persona 4, c'était le jaune. Persona 3, c'était le bleu. Persona 2, c'était déjà un rouge, mais pas le même que Persona 5. Persona 1, on était sur du violet. On n'avait jamais fait le vert. Là, on part sur du vert, un vert assez doux. Alors, pourquoi on sait exactement quel vert c'est ? Parce que du coup, maintenant que Midori confirme que c'est le vert, les gens ont ressorti une vieille illustration, enfin vieille de l'année dernière, qui datait du 25e anniversaire. Rappelle-toi, l'année dernière, tout le monde a dit, mais c'est sûr, le 25e anniversaire, ils vont terminer par le reveal de Persona 6. Et finalement, on ne l'a pas eu.
Oui.
Et on commence à avoir des explications sur pourquoi on ne l'a pas eu, et on va en parler. Mais cette illustration... Si tu veux, c'était très, très street art. Tu voyais un mur avec des tags, des trucs comme ça, et plein de protagonistes de tous les personnages, de 1, 2, 3, 4, 5. Ils étaient alignés un petit peu en rang les uns à côté des autres. Il y en a un qui avait une bombe de peinture, il y en avait un qui a un rouleau, machin. Ils avaient tout un truc, machin. Et à côté, il y avait un pot de peinture verte. Et les gens disent oh, il y a un pot de peinture verte, ça veut dire que ça sera vert. Alors là, les gens disent oui, tu vas un petit peu loin quand même. Mais là où ça commence à devenir bizarre, c'est que les différents protagonistes qui sont alignés, quand tu les prends de droite à gauche, puisque c'est le sens de lecture japonais, on va dire, tu avais tout à droite le protagoniste de Persona 4, ensuite un protagoniste de Persona 2, un autre de Persona 2, un de Persona 3, un autre de Persona 3, un de Persona 1, un de Persona 5, et le pot de peinture, qui serait potentiellement 6. Donc si tu prends ces chiffres 4, 2, 2, 3, 3, 1, 5, 6, en informatique...
Ça y est, mon cerveau explose.
Voilà, en informatique, quand tu codes une couleur, tu codes en mélangeant des couleurs. Quantité de rouge, quantité de vert, quantité de bleu, et tu fais n'importe quelle couleur à partir de ça. Donc ce code-là, c'est ça. Donc si tu prends 42 de rouge, 233 de vert, et 156 de bleu, tu mélanges tout ça, ça te fait exactement
la teinte
du vert qu'il y avait dans le pot de peinture.
D'accord.
Qu'il faut interpréter comme un 6.
C'est compliqué.
C'est compliqué, mais tu vois... Ils aiment bien, les fans, quand ils n'ont pas d'infos, ils aiment bien faire des enquêtes là-dessus.
Ah oui, ils aiment bien faire des trucs comme
ça. Et les développeurs, ils aiment bien cacher des petits trucs. Ouais. Et du coup, voilà, le fait que... alors, quand tu prends une couleur codée comme ça, en hexadécimal, tu tombes sur une teinte exacte.
Bah oui.
Vraiment très, très, très précise. Et que cette teinte très, très, très précise, ça soit exactement la teinte qu'il y avait dans le seau de peinture, c'était pas une coïncidence, tu vois, c'était pas possible. Il y avait vraiment « regardez-moi ce vert ». Et donc voilà, Midori confirme que ça sera vert et que ça sera effectivement ce vert-là.
Et du coup, pourquoi il n'y avait pas eu d'annonce alors ?
Alors, ils ont changé leur... ce qu'elle explique aussi dans une série de tweets, c'est qu'ils ont changé leur stratégie pour publier des jeux, et pour révéler les jeux et pour en faire la promo. Si tu veux, au mois de janvier, il y a Persona 3 Reload qui est sorti. C'est un jeu qui est terminé, complètement terminé, depuis plus d'un an.
D'accord.
Et ils voulaient le révéler beaucoup plus tôt. Mais c'est à peu près à la même époque où ils ont dit Persona, ça commence à exploser à l'étranger. Donc sortir le jeu au Japon et ensuite le sortir un an plus tard dans le reste du monde, on commence à passer pour des cons.
Ouais,
donc ils avaient un jeu prêt à sortir au Japon, ils ont dit non, on le sort pas.
On sort l'année d'après.
On le traduit.
Ouais, voilà, et faites le travail dessus. Et
un travail de traduction d'un jeu comme Persona, oui, c'est un an de boulot.
Ouais, c'est clair.
Et après, une fois qu'il est traduit, ils l'ont sorti. Et là, c'est pareil, ils étaient prêts, ils avaient un trailer de Persona 6 prêt à sortir, mais un trailer en japonais. Et ils veulent, quand ils veulent lancer la promo, ils ont décidé finalement, quand on lancera la promo de Persona 6, on lancera la promo de Persona 6 au niveau international. Donc il faut qu'on ait des traductions plus ou moins définitives, il faut qu'on ait une interface en anglais, des machins, pour que toutes les images qu'on montre soient en anglais. Donc ils ont retardé.
Ils ont raison.
Ils ont raison. Donc l'explication, c'est ça. Alors, est-ce qu'on aura un reveal de Persona 6 bientôt ? Je ne sais pas. Est-ce qu'on l'aura cette année ? Je ne sais pas, j'en sais rien. Ça peut encore être retardé. Mais en tout cas, on se dirige vers ça. Tant qu'on est sur le Twitter de Midori, elle confirme, et ça c'est tout récent, je crois que c'est des tweets qui datent d'aujourd'hui ou de hier, également prévu dans les cartons, un petit peu plus loin, mais prévu, des remakes de Persona 1 et 2.
Ça paraît logique.
Ça paraît logique. Mais et de 4, hein, 4 c'est une rumeur qui traîne depuis un petit moment.
De 4. Persona ah oui, parce 4. Qu'ils l'ont ressorti, mais c'était le même.
Ils l'ont ressorti, mais c'était le même, et c'est vrai qu'il commence un peu à avoir.
Et ouais, moi, j'avais pas continué parce que c'était trop.
C'est un jeu PS2, il y a une version PlayStation Vita, mais voilà, on est sur ces résolutions-là, donc c'est.
Non, moi, ce que je me demande, c'est qui cette Midori, là, du coup ? Est-ce qu'on a des informations sur qui c'est cette fille ?
Non, pas ce mec. Hein, pas vraiment. A priori, c'est une fille.
Est-ce que c'est quelqu'un qui travaille chez Atlus, chez Sega ? Ou est-ce que c'est une copine de quelqu'un qui travaille chez Atlus, chez Sega, qui a des informations
C'est possible. Elle est sans doute dans le circuit. Elle tweet en japonais.
Donc, c'est une japonaise, a priori.
Plutôt aux heures japonaises. Donc, voilà, ça nous vient direct de là-bas. Après, plus d'infos, on ne sait pas. Mais comme elle n'a pas trop le droit de faire ce qu'elle fait, c'est mieux si on ne sait pas qui c'est, quoi.
Ah non, d'accord, mais c'est...
Mais c'est vrai que c'est intéressant.
Moi, maintenant, je veux savoir, quoi.
C'est vrai que c'est intéressant.
Ce qui m'intéresse le plus, c'est de savoir qui c'est, quoi, maintenant.
mais c'est marrant, de temps en temps, t'as des leakers, tu arrives quand même, selon les fuites qui te sortent,
à comprendre
oui. Dans quelle sphère ils évoluent, tu
vois.
Voilà,
c'est pour ça que je te demande, parce que
des gens
parfois,
comme Deus Golem, qui sont très axés sur Capcom et sur Resident Evil, tu dis, bon, peut-être il y a peut-être ça, hein. Il y a quelques temps, maintenant, il a arrêté parce que soit il s'est fait choper, soit ils ont renforcé la sécurité. Mais il y avait un mec qui était très généraliste sur les annonces. Il était toujours 48 heures avant l'annonce, mais de tout le monde. C'était The Snitch, il s'appelait à l'époque. Et on a plus ou moins compris que s'il était là 48 heures avant tout le monde, c'est parce que d'une façon ou d'une autre, il avait accès au trailer qui était envoyé sur YouTube, mais marqué en privé.
Ah, donc il bossait chez YouTube.
Je sais pas. De quelque part sur la chaîne à cet endroit-là. Okay. Mais voilà, il avait le contenu du trailer, il avait le contenu complet des Nintendo Direct, des conférences, des machins, des trucs comme ça, parce que c'est des vidéos qui sont envoyées un petit peu en avant sur la chaîne YouTube, des machins comme ça, mais qui restent en privé et programmées pour être publiées à l'heure qu'il faut.
Ouais, alors moi j'ai une autre question. Ouais. C'est quoi l'intérêt de ces gens-là de faire des leaks, de créer des comptes secrets pour leaker des trucs ?
Voilà, c'est des mini-stars dans leur petit milieu et ça leur fait plaisir. Non, mais c'est des gens qui gagnent pas d'argent là-dessus.
Voilà, ça gagne pas d'argent là-dessus.
Non, c'est pour la.
C'est une
célébrité très très limitée.
Ouais, mais du coup, ça les met dans une position où ils peuvent être emmerdés derrière.
Et ils prennent des risques. Ils prennent des risques.
Ils prennent des risques et ils leakent le travail.
Mais c'est passionné. Alors voilà, les
Est-ce
fuites.
Est-ce que, enfin, je veux dire, alors j'imagine qu'il y a des trucs pas importants, ça va.
Quand tu es Midori, que tu es clairement fan de Persona et des trucs comme ça, être en position de partager ces choses-là avec d'autres fans et d'être au centre de ce truc-là, oui, c'est un côté...
Ouais, mais il y a aussi un côté où on sait qu'on a vu, par exemple, pour les fuites qu'il y avait eu pour GTA 6, tout ça, on sait que parfois, c'est
un
dégueulasse, quoi. Ouais. Enfin, parfois, c'est pas ce que les gens qui travaillent dessus auraient voulu, quoi. Donc,
voilà, après, il y a toutes les positions. C'est vrai que ça casse un petit peu les campagnes marketing.
Bon, après, voilà, si c'est juste pour avoir la couleur de Persona 6, moi, ça me choque pas.
C'est mignon comme fuite.
Voilà, c'est mignon, mais après, il y a des trucs où, quand même, c'est plus chiant, quoi.
Et la façon dont c'est obtenu, pour moi, ça influe aussi. Tu vois, quand il y a eu des tonnes de fuites parce que Insomniac s'est fait pirater, hacker leur serveur c'est pas cool. Et on en a très peu parlé à l'époque, tu vois.
Bien sûr.
Voilà, je vais pas faire semblant de pas savoir ce que j'ai lu, hein. Je veux dire, maintenant, je sais ce qu'il y a tout ça, mais on n'a pas fait des news en disant « Ah, Wolverine, ça sera ça. »
Non, parce que là, justement, le travail n'est pas censé être dévoilé, quoi. Donc, on respecte...
Non, quand c'est vraiment criminel derrière, il y a un problème. Final Fantasy VII Remake, troisième partie, devrait arriver.
Ça va s'appeler comment ?
Alors, bonne question, on peut ouvrir les paris. On a eu Remake, on a eu Rebirth, il y aura forcément Renaissance. Non, on a déjà eu Rebirth. Réunion, mais on a déjà eu Réunion.
Ah oui, il y a déjà eu Crisis Core Réunion.
Crisis Core Réunion. Est-ce qu'on aura un autre Réunion entre...
Ah, le Réunion, parce que là, le Réunion qu'on a eu, c'était le Réunion du FF7 original. Donc toi, tu crois qu'ils vont refaire un Réunion qui correspond à ce FF7-là ?
Le remake, qui était plutôt un remaster, bref, de Crisis Core, ils l'ont appelé Crisis Core Réunion.
Il ne s'appelait pas comme ça ?
Non, il s'appelait Crisis Core tout court.
Ah, d'accord, ok.
Et il y a un autre jeu qu'on peut très bien mettre et qui serait intéressant de mettre entre Rebirth et troisième partie, c'est Final Fantasy VII Dirge of Cerberus, et ça, c'est l'histoire de Vincent.
Ah!
Il y a tout un jeu là, il y a tout un jeu sur sur Vincent, et ça pourrait être intéressant de le mettre de le mettre là, tu vois, pour patienter d'avoir l'histoire de ce mec là qui est très mystérieux, qui arrive très tard dans Rebirth et qui aura une place beaucoup plus centrale dans le troisième, quoi.
Ouais, puis il est classe comme personnage. Ouais,
complètement. Donc ça peut être intéressant, tu vois, il y a à voir, ça peut être cool. En tout cas, en troisième partie, je sais pas comment ça va s'appeler. Réincarnation. Revengeance. Donc ça vient du producteur de Final Fantasy VII Remake, hein, monsieur, un des producteurs, Nomura, qui dit voilà, l'histoire principale de Final Fantasy troisième partie, Final Fantasy VII Remake troisième partie est terminée, on l'a complètement terminée, c'est fini d'écrire.
D'accord.
Et on va enchaîner très prochainement sur l'enregistrement des voix et des doublages. Il y aura peut-être encore quelques modifications, puisqu'il remarque par exemple qu'un autre producteur sur le projet, Kitase, a proposé quelque chose qui serait très important d'inclure dans ce jeu-là, et qui n'était pas dans le jeu original, donc pourquoi pas, c'est mystérieux, mais on ne sait pas ce que ça veut dire. Mais en tout cas, voilà, l'idée c'est de continuer sur le lancement, sur l'élan en fait qu'ils ont avec ce truc-là, en réutilisant beaucoup d'éléments. Parce que ce qui était beaucoup de travail dans Rebirth, c'est de faire ce monde entier de Final Fantasy VII, ce continent complet. À partir de là, à partir de ce qu'on a vu dans Rebirth, dans le nouveau, il n'y aura pas beaucoup de nouveaux endroits.
D'accord.
Tu vois, donc on va pouvoir réutiliser pas mal de choses.
Ils peuvent réutiliser
pas mal de personnages, pas mal d'ennemis, pas mal de trucs. Donc ils vont vraiment se tenir sur
ça
sur
peut aller plus vite, du coup.
Alors, pas plus vite, mais également pas plus lentement. Lui, il estime... non, mais il estime que ils ont réussi à faire Rebirth de façon très efficace et très rapidement, et il pense pouvoir faire la troisième partie tout aussi rapidement, ce qui positionnerait donc la troisième partie quelque part en 2027.
Ah, quand même, hein.
Ah, quand même. Et
ah ouais.
Remake, c'était 2020.
Putain.
Remake, c'était 2020, c'était un des jeux qui est sorti les deux premières semaines de la pandémie. Hein. C'était le temps passe vite, hein, mais voilà, on était en 2020. Voilà, on peut espérer ça quelque part en 2027. Voilà, donc à voir, il faudra quand même un petit peu de patience, mais d'ici là, on va avoir quelques bits, on va avoir sans doute
quelques bits.
BEAT, c'est un terme.
Bon, t'as fait exprès, là, c'est pas possible.
J'ai fait
quelques bits. On va avoir
chibres.
Quelques bits.
Nous allons avoir
quelques
billets. Bref, des
d'ailleurs, alors,
des
anecdote.
Qui vont,
anecdote. Non, anecdote personnelle. Il faut que tu fasses un jingle anecdote personnelle pour moi maintenant.
Vas-y.
En parlant de vie, Ben.
Ne parle pas de...
Non, pas de ton vie, évidemment.
Alors, déjà,
non.
Pour ceux qui sont pas marseillais, le vie, c'est le.
La bite.
C'est le zizi.
Le zizi, c'est ça. Donc, en fait, on tourne en Savoie et Ben travaille en Savoie, en Haute-Savoie régulièrement. Et là-bas, il y a une rivière ou un fleuve. C'est une rivière, non?
Oui.
Qui s'appelle le Fier.
C'est le Fier ou le Fier?
Ou le Fier. Et du coup, nous, comme on a en tête, on a le Vier, on appelle toujours ça le Fier.
Donc, auditeur de Savoie et de Haute-Savoie, c'est le Fier
c'est
ou le
Fier?
Fier
ou c'est le Fier?
Comment on dit? Parce que moi, j'aimerais bien que ce soit le Fier.
Donc, nous, on appelle ça le Fier, mais je crois que si on continue à faire ça, les gens vont nous regarder de travers quand on va habiter là-bas.
Et on va devoir encore changer de région.
Et on va leur dire le Fier, et après, on va leur expliquer que c'est par rapport au Vier marseillais, et du coup, ils vont encore dire vous êtes des tarés, barrez-vous, quoi, c'est pas possible.
Retour à l'actu. Pardon.
C'est ça.
C'est ça. Gio Corsi, ancien cadre de chez PlayStation, rejoint Nintendo of America. Qui c'est Gio Corsi? Vous connaissez peut-être ce nom. C'était un.
Pas
alors,
du tout.
Alors, il est un petit peu antérieur à la Belle Gamer. Il était chez PlayStation, surtout à l'époque de la PlayStation 3 et de la PlayStation Vita. Et c'est lui qui était à la tête de tout ce, de tous les studios qui développaient des jeux, en partenariat avec PlayStation. C'est-à-dire pas les studios PlayStation, mais les studios tiers qui faisaient des jeux en, soit en exclusivité pour PlayStation, soit en partenariat. Bref, il était responsable des partenariats avec des éditeurs tiers. Il était très célèbre, il était très actif sur les réseaux sociaux, très à l'écoute de la communauté. Il était très proche de la communauté. Il avait fait toute une initiative il avait demandé à la communauté vraiment de construire avec lui une liste des jeux qui sont pas sur PlayStation et qu'il fallait faire venir sur PlayStation, les machins. C'est lui qui a été un acteur très important de faire venir en Occident des séries comme Yakuza. Il a travaillé sur des trucs comme ça. Donc vraiment, vraiment un mec super qui a été extrêmement, extrêmement efficace à construire la bibliothèque PlayStation qu'on a eue à l'époque de la PS3 et ensuite, bon, il n'était plus là à l'époque de la PlayStation 5, mais c'est vraiment la suite de son travail qu'on a vu là. Et donc, ce mec-là, il rejoint à peu près au même rôle Nintendo.
Bah, c'est cool.
Donc c'est assez intéressant, surtout dans un contexte où Nintendo s'apprête à sortir une nouvelle console. Une console qui, selon les rumeurs, serait peut-être suffisamment puissante pour au moins avoir quelques jeux d'éditeurs tiers. Si tu veux, l'idée, je pense que l'idée pour Nintendo, c'est de revigorer un petit peu l'intérêt des éditeurs tiers pour la Switch. Parce que là, aujourd'hui, la Switch, c'est une machine à jeux Nintendo.
Complètement.
Et ça marche très bien, ils font des super jeux. Mais il y a de moins en moins de jeux d'éditeurs tiers.
C'est vrai, complètement.
C'est, voilà.
Ou alors vraiment des petits jeux.
Des petits jeux où c'est occasionnel, je veux dire.
Voilà, qui s'adaptent bien à la Switch et encore, on a l'impression qu'ils ont du mal à se lancer, quoi.
Ouais. Mais il y a une époque, à l'époque de la Wii ou des trucs comme ça, où quand il y avait un Call of Duty qui sortait, il y avait une version pour Switch. Alors c'était pas le même, hein, mais ils faisaient des adaptations, ils faisaient des trucs. Il y avait des partenariats avec Electronic Arts qui sortaient des jeux sur les Sims ou des trucs comme ça. Là, aujourd'hui, Electronic Arts ne publie pas sur Nintendo. Zéro. Activision. Alors bon, maintenant, Activision, c'est Microsoft, mais bon, Microsoft fait parfois du Nintendo. Hein. Mais voilà, les éditeurs tiers de manière générale, ouais, Ubisoft de temps en temps, et ben, ça va être Just Dance, et ça va être Mario et les Lapins Crétins, tu vois. Mais c'est
de... Mario, quoi.
Mais il y a Mario, voilà, il faut que ça soit un partenariat. Non, c'est de plus en plus rare, et généralement, pas de bonne qualité, et pas réfléchi à la console. Parce que quand tu fais un jeu pour Switch, il faut quand même réfléchir à faire quelque chose qui, techniquement, soit adapté à la Switch. Nintendo le fait très bien, ils arrivent à faire des jeux exceptionnels qui parle vraiment à ce matériel. Mais voilà, il faut quelqu'un pour pousser un petit peu ça au cul. Et Corsi, vraiment, c'est quelqu'un qui pourrait avoir ce bagou, qui pourrait vraiment... il connaît les éditeurs. Donc c'est pour le portefeuille de Nintendo, c'est un super ajout.
Mais il se porte bien, le portefeuille de Nintendo.
Ouais, mais il peut se porter en... Non, mais tu vois...
je sais.
Alors... Hasard.
Non mais je sais, quand t'as du fric,
le
tu en veux encore plus. Je sais, le capitalisme. Je te dis que j'ai vu un truc sur Madoff.
Ouais, alors c'est le mauvais capitalisme.
Oui, mais bon, c'est à ça que ça mène le capitalisme, hein, pardon. Mais...
Possibility Space, qui était, je suis obligé de parler au passé, le nouveau studio de Jeff Strain a fermé ses portes cette semaine.
Alors, qui est Jeff Strain ?
On va, voilà, reprenons.
Parce que moi, je me rappelle plus, hein. Est-ce que c'est un pédophile ?
Je suis pas certain. Non, mais il a...
Est-ce que c'est un ancien connard de Blizzard qui s'est fait virer en 2005 et qui nous harcèle sur les réseaux sociaux ?
Non.
D'accord.
Alors, Jeff Strain, qui c'est ? Alors, il vient, si on remonte un petit peu son CV au tout début, c'était un des cofondateurs de ArenaNet, le développeur de Guild Wars.
Ah oui.
Ok. Il s'était barré de ArenaNet en 2009 pour monter un studio qui s'appelle Undead Labs, développeur de State of Decay.
Ah oui.
Ok, donc tu vois un peu le parcours du bonhomme.
D'accord.
C'est pas un mauvais parcours jusque-là.
Non, non.
Et en octobre 2021, il a monté ce studio, Possibility Space, qui n'a sorti aucun jeu, qui n'a annoncé aucun jeu. Mais qui n'en annoncera jamais puisque le studio ferme ses portes. Hein. Pourtant, ils avaient des noms. Hein.
Ils avaient commencé à recruter quand même.
Ah, ils avaient une grosse équipe.
Ils avaient une grosse équipe.
Avec des anciens artistes de chez Camposanto, Firewatch.
Ouais.
Des artistes de chez Valve hein, qui avaient bossé sur Half-Life Alyx, des trucs comme ça. À l'écriture, ils avaient des gens qui étaient sur Sunset Overdrive, sur Watch Dogs Legion. Bon, ok. Ils avaient quelqu'un que j'aime beaucoup, 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 beaucoup à l'écriture, c'est Austin Walker, ancien journaliste de vidéo qui était chez Waypoint et avant ça Giant Bomb.
Oui, oui, je vois qui c'est.
Austin Walker, ouais, 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 il était chez eux. Si vous voulez vous sentir comme une merde, allez lire
la. Ça va.
Allez lire la.
Pas besoin. Je me sens déjà assez comme une merde comme
allez
ça.
Allez sur internet, allez lire la critique d'Austin Walker de Dragon's Dogma 2 et vous allez réaliser que vous savez pas écrire. Il est, oui, non, bah, il est vraiment très très fort. Bref.
Chacun fait ce qu'il peut. Hein.
Donc tous ces gens-là, de toute façon, peu importe, ils sont à la rue maintenant. Ils n'ont plus de travail puisque le studio ferme.
Et alors pourquoi
et pour, et
avec
c'est ça,
ces
et
grands
c'est
noms là. Et tout ce truc-là, pourquoi et ça n'a pas marché et cette, pourquoi ça cette pas structure marché.
Alors, on va écouter la version de Jeff Strain. Pourquoi ça n'a pas marché? C'est à cause de ces connards d'employés.
Ah, les connards.
Ouais, 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 non, ces petites putes qui ont osé diffuser des informations confidentielles sur la société à des journalistes de Kotaku.
Ouais, où est le rapport?
Donc il explique dans un mail annonçant la fermeture du studio et que tout le monde n'avait plus de travail à la fin de la journée.
Sympa.
Que la raison, c'est que voilà, il a appris qu'un journaliste de Kotaku était en train de préparer un article qui mentionnait son studio Possibility Space. Et dans cet article, il y avait des informations confidentielles qu'il n'a pu avoir que par des indiscrétions d'employés actuels. Il n'y a pas d'autre explication. Apprenant que cet article, qui n'est jamais sorti, apprenant que cet article existait, il a été voir son éditeur, il a dit « Mais moi, mes employés, c'est tous des petites putes, ils sont en train de raconter des trucs secrets aux journalistes. » Et donc, l'éditeur a dit « Ah ben d'accord, ben, si on ne peut pas faire confiance en vos employés, on coupe le financement du studio. »
C'est qui l'éditeur?
C'est
c'est secret, on saura pas.
C'est pas mais on les connaît pas. Je sais pas qui c'est.
Ah.
Et donc du coup conséquence, on ferme le studio parce qu'on a plus de sous.
Mais c'est débile ou quoi?
C'est complètement idiot. J'ai jamais vu ça. C'est accuser les employés sans rien du tout d'un truc sans conséquence. Ça ressemble à une histoire complètement inventée. Ça n'a pas de sens.
Parce que pourquoi l'éditeur il leur couperait les fonds
ça n'a pas de sens.
Je veux dire, si à chaque fois qu'il y a une fuite, tu coupes les fonds de. Plus personne ne fait de jeux vidéo, quoi.
Mais c'est ça. C'est ça.
D'accord. Bon, donc le monsieur machin là, il a l'air quand même d'être. Il est apparemment pas pédophile ni harceleur, mais il a l'air quand même un peu taré sur les bords. Hein.
Voilà, il est un petit peu foufou, ça. C'est,
ouais, ça pour le coup, c'est très bizarre hein, comme attitude voilà. Et comme explication.
En conséquence de l'annulation de notre relation de publication et après considération attentive, j'ai décidé de fermer le studio Possibility Space. Aujourd'hui est votre dernier jour de travail chez Possibility Space.
Donc ça, c'est l'email que les employés ont reçu.
Exactement.
Mais c'est chaud.
Il dit voilà, pour les employés qui sont en présentiel, merci de laisser vos affaires sur place quand vous partez ce soir. Et pour ceux qui sont en télétravail, vous pouvez garder votre matos chez vous, on s'en bat les couilles.
Mais c'est un truc de fou. Il est fou ce monsieur.
C'est fou, c'est assez fou.
Non, parce que même, je veux dire, enfin bon, déjà virer les employés du jour au lendemain, c'est chaud, mais pour ça.
Et dans les arrangements du mail, c'est ce qui me fait rire. Alors pour les employés qui sont en dehors des États-Unis, conformément à vos lois locales, vous êtes encore employé pendant 2 semaines, mais vous n'êtes pas obligé de travailler. Ok.
Ok. De toute façon, tu veux travailler sur quoi? Il n'y a plus de projet, quoi.
Ben, c'est ça. c'est ça.
Donc en gros, il ferme son studio parce qu'il a mal pris un truc, quoi. C'est ça.
Oui, ou alors il a envie de se barrer avec le pognon, mais ça... Immortals
avec
of Heaven.
Pognon il ramasse là?
Je sais pas, parce que
le pognon qui avait déjà été fourni par l'éditeur.
S'il arrête de payer tout le monde du jour au lendemain, il a au compte en banque, il est pas à zéro, je pense. Hein.
Il a le droit de faire ça, de garder l'argent.
C'est une question auquel répondra le fisc américain et.
Oui, voilà. Parce que j'ai regardé Madoff la semaine dernière. Hein.
Et je sais. Tu l'as mentionné.
Bon, c'est des glands, les Américains, mais parfois, ils se font choper, quoi.
Ascendant Studio, développeur de Immortals of Aveum. Rappelle-toi, la dernière fois qu'on a parlé de ces braves gens, ils avaient...
Ils avaient
licencié 45% de leur personnel.
Ah, je croyais qu'ils avaient fermé
complètement. Non. Bah, alors, par contre, maintenant...
Pardon.
Ça tombe bien qu'il en parle. Non, ils n'ont toujours pas fermé. Par contre, l'ensemble des employés restants ont été mis en congé pour une durée indéterminée.
D'accord. Congé payé ou non payé ?
C'est pas clair. C'est pas clair. Ils sont en congé, c'est-à-dire qu'ils ne travaillent plus sur... je ne sais pas sur quoi ils travaillent à son studio, mais ils ne travaillent pas là-dessus. Techniquement, ils ne sont pas virés.
Ouais, mais bon, ça pue, ça pue quand même
sévère. Pas très bon. Ça sent pas très bon. Alors, peut-être que le truc est mis en suspens en attendant une transaction financière. Peut-être qu'ils vont se faire racheter
oui,
par...
Voilà, ouais.
Ils vont être intégrés à leur...
Ils vont se faire racheter par Jeff Machin, le gros taré.
Non, mais par Electronic Arts, qui était leur éditeur sur ce projet. Voilà, ils peuvent être intégrés et ensuite répartis sur d'autres projets Electronic Arts. Peut-être que, voilà, peut-être ouais, que le studio sera absorbé. Pour l'instant, on ne sait pas. Ça doit être un petit peu stressant pour ces gens-là qui... voilà. Je ne connais pas assez les lois du travail aux États-Unis. Je sais pas ce que ça veut dire, en fait, d'être mis en congé comme ça. Est-ce qu'ils sont payés ou pas ?
Alors,
ça m'étonnerait.
Voilà. Supposition éclairée, ça m'étonnerait qu'ils soient payés à rien foutre aux États-Unis.
Alors, on va demander à Google. Mais,
ouais, ça peut vouloir dire, bon, vous arrêtez, vous bossez pas, vous pouvez aller chercher un boulot ailleurs, mais au cas où, on va certainement... Le job est gardé pour vous si vous voulez rester, quoi, en gros. Hein.
Exactement. Donc, temporary leave from work that is not paid.
Ben oui.
Donc voilà. Alors, un, c'est pas payé. Et deux, tu n'as pas le droit de poser tes congés payés pendant cette période. Ok.
Oui, normal.
Bref, situation de merde.
Non, mais en gros, ça veut dire le poste, on le garde pour toi, pour l'instant, ouais. Parce qu'il y a possibilité que ça redevienne un poste viable
que
après.
Que ça reparte.
Mais si tu veux te barrer, tu
si
te barres.
Si tu veux
te
barrer, c'est peut-être une bonne idée.
Et si tu trouves pas de si tu veux essayer de te barrer et que tu trouves rien d'autre, ben, si tu décides de revenir, ben, à un moment, ça sera peut-être toujours disponible, quoi.
Exactement.
Voilà.
Exactement. Dead Space.
Lequel ?
Bah Dead Space, la série, globalement, on va parler Dead Space. Le remake était sorti l'année dernière, qui était plutôt cool. Hein,
oui.
Hein, qui donnait envie d'un remake de Dead Space 2, par exemple. Mm-hmm. Ça aurait été une bonne idée. Non. Pas de... Non.
Non, mais méchamment, quoi.
Non, mais méchamment. Ouais, non, mais méchamment. Donc, le studio Motive, qui avait développé Dead Space, donc on sait qu'ils ont grosso modo deux équipes hein, chez Motive. Hein. Il y en a une qui avait bossé sur Dead Space, il y en a une autre qui bossait et qui bosse toujours sur un projet Iron Man avec Marvel. Et donc là, ils ont annoncé que le reste des employés de Motive étaient assignés par Electronic Arts pour bosser sur la franchise Battlefield.
Ah!
Ce qui est bof. Donc là, les fans se sont dit, bah, du coup, ça veut dire Dead Space 2 ou quoi ? Donc là, on a une rumeur de notre ami Jeff Grubb hein, qui explique dans son podcast qu'effectivement, il y avait un projet Dead Space 2 qui était en considération chez Motive et chez Electronic Arts. Ce projet a été annulé et l'équipe est transférée sur la franchise Battlefield dans son ensemble. Ce qui est un petit peu un gâchis de... On est d'accord. Electronic Arts, quelques heures plus tard seulement, a démenti cette rumeur.
D'accord.
Pas du tout. Jeff Grubb dit de la merde, comme d'habitude. Et
tu vois, lui aussi.
Voilà.
Hein,
et donc, du coup,
lui aussi, on lui parle mal.
Ouais, mais complètement. Et donc, du coup, Dead Space... Non, quand même pas Dead Space 2.
Faut pas déconner.
Ça, pour ça, non. Mais alors, par contre, il a dit qu'on a considéré Dead Space 2 et qu'on l'a annulé. Pas du tout. On n'a jamais considéré du tout. C'était... donc,
d'accord.
À quoi tout le monde a répondu oui, c'est ça, vous avez fait un remake de Dead Space 1 avec du teasing pour une suite dedans, mais Dead Space 2 c'était jamais hors de question, quoi.
C'est ça.
Non, voilà, bon, c'est des petites guéguerres sur la formulation du truc, mais le résultat est le même. Dead Space 2 et la série Dead Space de manière générale est un petit peu remise de côté.
Dommage. Hein.
Alors les raisons, c'est les ventes de Dead Space Remake qui ont été décevantes a priori pour Electronic Arts.
Ah bon ?
Ouais, mais alors,
mais les gens, ils achètent jamais les jeux qu'il faut acheter, en fait.
Oui, ou alors ils les achètent et les attentes d'Electronic Arts sont trop élevées, tu vois.
Aussi.
C'est, aussi. C'est parce que là, quand ils ont fait Dead Space, le remake, j'y étais à la réunion chez Electronic Arts. Hein. Alors, j'y étais pas, mais c'est comme si j'y étais. Tiens, un mec qui a fait... Attends, ils ont fait combien Capcom avec le remake de Resident Evil ? Combien ? Eh bien, on refait Dead Space. On va faire pareil. Ils ont fait 12 millions, on va faire 12 millions. C'est sûr et certain.
Ouais, mais non, Dead Space, c'est pas Resident Evil.
Voilà, Dead Space, c'est pas Resident Evil. Et surtout, Resident Evil, ils sont pas arrivés là du premier coup. Il y a eu des remakes de Resident Evil 1 qui étaient cool, mais qui n'ont pas tout remué.
Non.
Mais voilà, ils ont mis du temps à trouver leur rythme de croisière. Et si tu laisses pas, bon, c'est pas, ça marche pas. Ça marche pas. Écoute, cette semaine, Hazard, tu l'as vu, je l'ai vu, il y a eu un showcase d'un regroupement de développeurs indépendants.
Ouais, je l'ai vu. Ouais.
Donc, ils ont montré plein de jeux indépendants. C'était le showcase Triple I.
Mais Triple I, mais pourquoi les... Moi, j'ai une question. Pourquoi les éditeurs indépendants, ils font tous le même type de jeu ? J'ai eu l'impression de voir à chaque fois 10 fois la même chose.
Mais quoi. Même le showcase, ils se moquaient d'eux.
Oui, même dans le showcase, même ils se disaient promis, on vous fait plus des roguelikes après.
Dans le compte à rebours, au début, il y avait marqué à chaque fois que vous voyez un roguelike dans ce showcase, faites 10 pompes.
C'est ça.
J'ai plus de bras depuis.
Ouais, il n'y avait que des roguelikes, que des city builders.
Non, alors, j'aime bien l'initiative.
Mais oui, c'est dommage.
De manière générale, le fait de regrouper plein de gros, entre guillemets, jeux indépendants dans un même truc pour vraiment faire un buzz et promouvoir ces jeux, les mettre en avant, c'est cool. L'idée est bonne. Et dans le lot, il y avait quelques perles dans le lot. Il y avait quelques jeux qui avaient l'air sympas. On est content d'apprendre qu'il y a un nouveau Slay the Spire qui est développé.
Oui.
Alors, c'est pas trop bon truc, hein, mais les roguelike en deck building, c'est pas ma spécialité, même si j'aime bien jouer à Balatro. Mais Slay the Spire 2, ça arrive en 2025 en Early Access, ça a l'air très cool. Le nouveau jeu des développeurs de Dead Cells, on en avait parlé en rumeur la semaine dernière, c'est The Rogue Prince of Persia.
Oui.
Ça a l'air assez cool. C'est une collaboration avec Ubisoft hein, dans l'univers de Prince of Persia. C'est Evil Empire qui fait ça. Hein. Donc c'est le studio qui est ressorti de développement de Dead Cells. C'est des Français. Et ils bossent là-dessus. Et donc ça ressemble à un roguelike dans l'univers de Prince of Persia. Ça a l'air de bouger de façon au moins aussi nerveuse que Dead Cells. Il y a beaucoup de ça là-dedans. Visuellement, le but, réussi ou pas, je trouve que c'est original en tout cas, c'est de s'inspirer un petit peu du style qu'ont les bandes dessinées franco-belges qu'on connaît, avec ce type de couleurs, ce type de...
Oui, style Tintin.
Voilà, alors bon, c'est Prince of Persia, tu vois. Mais on reconnaît un petit peu le style visuel.
Je vois pas le rapport entre Tintin et Prince of Persia.
Ouais, mais ça peut marcher. Ce qu'on a vu, les trailers, ça a l'air plutôt cool. Ça arrive très bientôt. Hein, c'est au mois de mai qu'on va avoir le début de l'Early Access de ce truc-là.
Mm-hmm.
Donc ça a l'air cool. Non, voilà, il y avait des bonnes choses là-dedans. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a une sortie PlayStation de Vampire Survivors avec un DLC sur contrat. On a un nouveau mode de jeu pour Darkest Dungeon 2. Il y a un DLC Castlevania pour V Rising.
Ouais.
Il y avait quelques trucs cool. Non, c'était des jeux indépendants. Hein. On espérait. Tu sais ce qu'ils ont fait aussi, ces couillons. Comme dit ce showcase, il était présenté au début. Il y avait 15 minutes de compte à rebours, comme ils font souvent quand il y a des streams sur internet.
Mmh.
Et pour agrémenter ce petit compte à rebours, il y avait des petits messages trop mignons dans un coin où ils disaient on va avoir beaucoup de roguelike. Il disait on est content, il n'y a aucun trailer qui a fui, machin.
Oui.
Et un des messages, c'est vous vous rappelez ce Metroidvania avec les insectes là qui devrait sortir bientôt ? Ça avait l'air cool, ça. Donc, en gros, ils ont teasé Silksong, le nouveau Hollow Knight.
Ah.
Ils ont teasé Silksong et ils ne l'ont pas mis dans le truc, quoi.
Donc, ouais, c'est...
Voilà.
Donc, oui, c'est un peu un fuck à ceux qui l'attendaient.
C'est ça, c'était pas très gentil.
Bon, moi, ça me fait rire, mais bon...
Ouais, mais moi aussi, parce que...
Parce que les gens qui prennent les choses mal, ça va, quoi.
Et ça va.
Mais, non, moi, je suis un petit peu déçue de la variété de types de jeux qui est assez décevante, en fait. Voilà, c'est
ouais,
tout.
Ouais, il n'y a pas beaucoup de variété.
J'ai vu 10 fois la même chose, et après 10 fois d'autres choses, et après 10 fois d'autres choses. Il y avait 3 types de jeux, c'est tout. Roguelike,
ouais.
City Builder et Vampire Survivor-like.
Ouais.
C'est tout.
Ouais, c'est ça.
Et... Bah, je sais pas, c'est con, je trouve. Enfin, des jeux indépendants, tu peux faire ce que tu veux finalement. Donc,
ouais,
pourquoi tu vas faire la même chose que les autres, quoi.
Ouais. C'est essayer d'imiter ce qui marche au lieu de faire ta propre bonne idée.
Ouais, c'est un peu dommage.
C'est dommage. Blizzard. Entertainment. Les jeux Blizzard sont de retour en Chine. Roulement de tambour.
Ah oui, c'est vrai.
Nouvel accord. Voilà, bah, alors rappelez-vous, hein, ça fait
donc,
un peu plus
Phil Spencer a réglé le problème, quoi.
Bah, à l'époque, selon les mecs de NetEase et selon les gens qui étaient un petit peu au courant de ce deal, quand ça avait capoté fin 2022, c'était principalement à cause, je cite, un connard chez Activision Blizzard qu'on ne citera pas.
Bobby Kotick.
Qu'on ne citera pas. aujourd'hui, visiblement, ce connard n'est plus là. Et ça va mieux. Donc, NetEase, qui est le même éditeur qu'à l'époque, hein, et Blizzard ont retrouvé un terrain d'entente.
Okay.
Et les jeux Blizzard, l'ensemble du catalogue Blizzard, que ça soit World of Warcraft, Hearthstone, Overwatch, des jeux qui sont gros en Chine.
Et oui, bien sûr.
Retourne chez NetEase d'ici cet été. Il faut quand même que les choses se remettent en place.
Et donc, du coup, les joueurs chinois retrouveront leur sauvegarde, leur progression, leur personnage, etc.
Alors, ça paraît logique, oui, puisque le fait qu'on soit chez le même éditeur,
ils ont dû conserver les données.
Donc, ça devrait fonctionner. Hein.
Ok. Parce que c'était ça qui était le plus difficile à...
Exactement. Mais c'est un retour en Chine de World of Warcraft, de Hearthstone, d'Overwatch et de Diablo. Donc, bon, c'est cool pour les Chinois. Je ne sais pas si vous êtes très nombreux à nous écouter. Mais
maintenant, oui.
Maintenant, oui, parce qu'on vous apporte une bonne information.
Non, maintenant, oui, depuis ton harcèlement qui vient de toute l'Asie. Je pense que les Chinois s'y sont mis aussi. Maintenant, tout le monde nous écoute.
Exactement.
Et on est traduit directement en chinois, en coréen et en japonais.
Exactement.
En direct.
En direct live. Mm. Et on vous fait des bisous sur le bout du cul. Star Wars Outlaws sort bientôt. Quoi ? Tu connaissais pas l'expression ?
Le bout du cul, non.
Moi non plus.
Il y a un bout du cul ?
Enfin, il y a un bout à tout. Excuse-moi. Star Wars Outlaws, le Star Wars de Ubisoft.
Ah oui ! On va raconter une anecdote là aussi.
Oui,
quand même.
Aussi.
Tu la racontes ? Tu l'as prévu l'anecdote ?
Oui, oui. Bah bon, ouais, tu sais, moi je suis... intarissable en anecdote. Star Wars Outlaws.
L'anecdote des...
Alors, plusieurs choses sur Star Wars Outlaws.
Du bout de quelque chose.
Du bout du cul.
Mais qui n'est pas loin.
Alors, Star Wars Outlaws, le jeu Star Wars d'Ubisoft.
Oui.
On avait déjà vu un trailer l'année dernière de ce jeu-là.
Je ne l'ai même pas vu, en fait, le trailer,
mais
finalement.
Je, je voulais te le montrer.
Tout ce qui s'est passé.
Il y a eu les événements.
avec tous les événements qui se sont passés, je n'ai pas vu le trailer de Star Wars Outlaws.
Ben, Star Wars Outlaws, donc tu joues une contrebandière, une vaurien, hein, comme ils disent dans l'univers de Star Wars, en anglais un scoundrel. Alors ça se passe quelque part entre l'épisode 5, Empire contre-attaque, et l'épisode 6, le retour du Jedi, pour les spécialistes.
Ah, les vieux alors.
Ouais, mais les meilleurs.
Oui, oui.
Et tu évolues donc vraiment dans les mafias Star Warsiennes, hein, le clan des Hutt, tous les clans Crimson Dawn, tous les clans de criminels de l'univers de Star Wars. Tu évolues dans cet univers-là. Ça a l'air très cool. Le trailer était assez bien fait. Ça montre bien l'univers. Pour l'instant, il n'y a pas l'ombre d'un Jedi ou d'un sabre laser, donc très bien. J'en ai marre. Moi, je veux. J'aime bien ces histoires de Star Wars vraiment au ras du truc. Tu vois.
Tout à fait.
Le gros reproche, je trouvais que c'était bien dit, le gros reproche qui est fait à toutes les productions Star Wars actuelles, c'est que ça se passe dans une galaxie, mais c'est la galaxie la plus petite que tu aies jamais vue. Je veux dire, dès que tu racontes une histoire, il faut qu'il y ait un Skywalker qui est au milieu. Oh, c'est une galaxie. On peut avoir d'autres...
Mais en même temps, les Skywalker, ils se reproduisent un peu, non ?
Non, ils sont trois.
Mais le vieux là qui est sur son île avec sa cagoule, là, lui là, il a piné dans toutes les planètes, on est d'accord. Il en a mis partout des petits Skywalkers.
Non, si on aurait plein, ok. Mais c'est toujours le Skywalker et puis Dark Vador, imagine. C'est toujours les mêmes.
C'est toujours les mêmes.
C'est toujours les mêmes dans une galaxie, on dirait un village. Galaxie de 12 habitants, j'en peux plus quoi. Bref, Star Wars Outlaws, une date de sortie pour Star Wars Outlaws. La date de sortie est fixée au 30 août 2024.
Oui.
Ce qui est bien, c'est plutôt que ce que j'imaginais. Je le voyais plus à l'automne. Là, on est vraiment.
Mais comme dit, j'espère que ce sera un bon jeu Star Wars. On est d'accord, c'est le jeu d'Ubisoft. Hein.
Ouais.
Voilà.
C'est le jeu d'Ubisoft développé par Massive. Massive, c'est The Division. Et c'est Avatar's Frontiers of Pandora.
Non, ça me rassure pas.
Ils ont en tout cas un moteur graphique qui est assez excellent.
Très bien.
Et ils promettent de s'éloigner de tous les clichés Ubisoft, les tours à escalader, les trucs comme ça.
J'espère, parce que ça va pas avec Star Wars. Hein.
Ça va pas.
Surtout avec une histoire de contrebandière, etc. On veut une ambiance.
Après, je serais tenté de dire ça va pas avec Final Fantasy VII, et pourtant.
Et pourtant. Non, mais bon, si, ça va avec Final Fantasy VII. Bon. Mais là, on veut une ambiance, on veut un. Comme tu dis, le Star Wars des bas-fonds, quoi.
Ouais. Ouais, ouais. Bon, alors, ça fait jaser, hein, ce Star Wars Outlaws et Ubisoft de manière générale, puisqu'on est, on se retrouve sur les travers habituels d'Ubisoft. On a une édition collector avec le Season Pass, parce que, bon, c'est un jeu solo, il faut absolument un Season Pass, hein, sinon... Je comprends pas. Donc voilà, si tu.
Pourquoi Season Pass sur un jeu solo ?
Avec des missions exclusives dans le Season Pass, des trucs comme ça. Donc si tu veux le jeu complet, il faut prendre cette édition qui va te coûter la modique somme de 129 €. Mm-hmm. Ce qui est beaucoup de sous, je trouve.
Ouais, de toute façon, ils en feront toujours des éditions plus chères. Hein.
Ouais.
Il faut bien trouver des trucs à mettre dedans. Hein.
Ouais, il faut bien trouver. Bah, non, justement, il n'y a rien dedans, quoi. Tu vois, c'est.
Il y a des nouvelles missions.
Ouais, enfin. L'écart avec la version de base à 80 € quand même. Voilà, ça fait 50 balles la mission, quoi.
Je sais pas quoi te dire. C'est pour ceux qui ont du pognon. Hein.
Voilà, c'est ça. Donc, cette Ultimate Edition, il y a aussi des cosmétiques, un digital artbook.
Il y a des NFT.
Non, il n'y a pas de NFT. Ils auraient pu, hein, à ce prix-là, quand même.
Ils auraient pu faire un effort, là, pour le
coup. Voilà, une mission exclusive disponible lentement qui implique Jabba the Hutt. Donc, si vous voulez aller voir Jabba the Hutt, faut passer à la caisse. La bonne nouvelle, et là je vais être un petit peu médisant avec Ubisoft, la bonne nouvelle c'est que c'est un jeu Ubisoft, donc vous allez pouvoir l'acheter à moins 50%, grosso modo 12 minutes après sa sortie.
C'était méchant.
C'est méchant, mais ils baissent vite les prix Ubisoft. Souvent. Ouais, non. Alors, en plus, Star Wars fait parler de lui pour toutes les mauvaises raisons. Hein,
Mais parler de lui dans certains cercles, dans donc certains cercles. Les mêmes qui t'ont harcelé.
Ouais, on parlait de harcèlement la semaine dernière.
Alors, je crois qu'ils sont surnommés dans le milieu les petites bites, mais c'est pas moi qui l'ai dit. Hein.
Alors, si, c'est toi, puisque.
C'est moi qui l'ai dit, mais c'est pas moi qui l'ai inventé.
Et.
Moi, tout ce que je sais. C'est que quand tu mets tes deux doigts comme ça...
Ah, ça les trigger.
Ça les trigger, quoi. Donc, ouais, je veux dire, si tu mets tes deux doigts en petite bite et que ça les trigger, bon, ben, ça veut bien dire qu'il y a un problème d'estime de soi, quoi.
Non, non, mais voilà, tous les gens qui sont... Tous ces gens un petit peu bizarres sur Internet dans des cercles peu fréquentables. Là, ce qui les choque, c'est que Ubisoft te force à jouer un personnage féminin.
Déjà.
Et que ce personnage féminin n'est pas suffisamment sexy à leur goût.
Quel scandale.
Et voilà, c'est une contrebandière dans Star Wars. C'est, voilà, elle a peut-être un peu une trace de cambouis sur le front et une coiffure des années 70 parce que c'est Star Wars.
C'est vrai.
Et donc forcément, c'est peut-être pas les critères qu'ils recherchent, mais voilà, c'est ridicule. C'est malheureusement ridicule. Allez, on va finir par la news spéciale. Je sais pas, elle me fait plaisir cette news. Yuji Naka, co-créateur de Sonic, créateur de Balan.
Celui qui est en instance de prison là.
Condamné pour insider trading.
C'est vrai.
C'est voilà, ça avait fait pas mal de news. C'était l'année dernière, hein, c'était en mars de 2023 qu'il avait plaidé coupable suivant son arrestation en novembre 2022. Donc il a eu une peine de prison avec sursis.
Japon, tu vas... Quoique, c'est pas strict le Japon quand même, ce genre de truc.
Bref, avec sursis, il avait complètement disparu des réseaux sociaux depuis, il n'avait plus rien posté, jusqu'à aujourd'hui.
Maintenant, il revient à la tête des petites bites.
Il revient... Non, pas du tout. Pas du tout. Non, en fait, il revient en réaction. Il y a eu des changements en fait, au sein de chez Square Enix sur les responsables des différentes franchises, des trucs comme ça. Et il y a eu un changement en particulier c'est Miyake qui était responsable de la franchise Dragon Quest en tant que producteur depuis le début de cette franchise. Il quitte la franchise et maintenant il est responsable des jeux mobiles chez Square Enix, donc c'est pas forcément une montée en grade. Mais voilà, il est viré de Dragon Quest et Yuji Naka a décidé de célébrer ça sur Twitter en disant j'espère qu'il va se barrer bientôt, bon débarras. C'est le genre de personne qui est capable de mentir sous serment au tribunal.
C'est vraiment l'hôpital qui se fout de la charité, il est bon lui.
Donc visiblement, il a témoigné contre lui.
Oui, voilà.
Et il l'accuse d'avoir menti. Donc voilà, revenir sur Twitter pour poster ça, je trouve ça merveilleux.
Mais il est fou encore celui-là, il faut le... je sais pas. Les gens, hein.
Les gens.
Même au Japon, hein.
C'est très drôle.
Enfin, aussi.
C'est très drôle.
Enfin, je sais pas.
Voilà. Par contre, il est très gentil avec le nouveau président de Square Enix et en disant que ça a l'air d'être un gars bien.
Bah, c'est très bien que quelqu'un comme ça donne son aval. Voilà, ça a dû lui faire plaisir au président de Square Enix. Hein.
Un badge d'honneur. Allez, un agenda des sorties. Alors, quelques sorties. Rien d'énorme cette semaine, hein, mais demain mardi 16 avril, on va avoir les versions PlayStation et Switch de Grounded qui arrivent.
D'accord.
Hein, on reste dans l'initiative de Microsoft de sortir quelques jeux sur d'autres consoles. Donc, Grounded arrive demain mardi, Switch et PlayStation. Également demain mardi, ça c'est sur PC, PlayStation, Xbox Series et sur le Game Pass, Harold Alibut. Harold Alibut, on en avait un petit peu parlé la semaine dernière, c'est un jeu d'aventure dans une station spatiale. Visuellement, c'est très original parce que c'est que du stop motion, un petit peu, donc c'est rare de voir ça. Le résultat visuel est très réussi. Après, est-ce que le jeu est intéressant? On va attendre qu'il sorte pour se prononcer, hein. Les premiers retours sont pas forcément ultra positifs. En tout cas, pour moi, c'est une déception par rapport à ce que j'attendais. Ça a pas l'air super... C'est sur le Game Pass, donc si vous avez le Game Pass, testez Harold Alibut parce que ça a l'air intéressant. Si vous n'avez pas le Game Pass, peut-être attendez des retours avant de mettre des sous dedans. 18 avril, ça c'est jeudi, on a sur PlayStation 5 uniquement la deuxième partie des DLC de Final Fantasy XVI. The Rising Tide, deuxième DLC, c'est le DLC scénario qui devrait
révéler... Est-ce qu'il y a une scène de cul
Il faudra y jouer pour le savoir, mais c'est avec le Léviathan.
Il y a une scène de cul avec le Léviathan?
Non, non. Une scène juste avec le Léviathan, dont le contenu reste secret pour l'instant. On peut teaser peut-être, mais pas sûr. Bon, sur Steam également jeudi, Steam uniquement, l'Early Access de No Rest for the Wicked, c'est le nouveau jeu de Moon Studio, les développeurs de Ori and the Blind Forest, Ori and the Will of the Wisps. C'est très différent, on l'avait vu au Game Awards, No Rest for the Wicked, ça ressemble à un Diablo-like assez exigeant, ça a l'air très bien.
Donc c'est Early Access ?
Early Access, voilà, c'est le début du jeu. Ils avaient détaillé il y a quelques semaines le contenu de cet Early Access. Je crois que c'est le premier acte de la campagne ou un truc comme ça.
D'accord.
Donc à voir, à surveiller pour les amateurs d'Early Access.
C'est ça.
Voilà pour les sorties. Encore une semaine assez calme quand même et c'est pas plus mal. Aza ?
Oui.
Merci.
Merci à
toi. Merci d'avoir participé à cet épisode. Merci pour ta contribution. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés et qui nous rejoignent chaque semaine. J'espère que vous allez passer une excellente semaine. Et on vous dit à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures complètement incroyables.
Salut.
Des bisous à tous. Salut.